Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Alors vous l'entendez, je suis de retour dans ce studio après une infection par la Covid, on s'en est pas caché, j'ai eu une forme peu grave, heureusement, et donc après 7 jours d'isolement, je suis de retour à mon poste pour mon plus grand plaisir. J'espère pour le vôtre aussi, Jimmy. Vous pouvez rassurer peut-être nos auditeurs, je ne vous mets pas en danger aujourd'hui,
non,
on a respecté
pas.
Toutes les règles.
Vous avez respecté la période d'isolement durant 7 jours, nous avions des masques, nous continuons d'en porter un, et d'ailleurs vous en portez toujours un alors que vous êtes a priori immunisé, Europe 1
J'espère.
A montré l'exemple, donc c'est une bonne chose. Et encore une fois, attention, toutes les personnes qui attrapent le Covid ne sont pas des irresponsables qui font la fête. On a beaucoup incriminé les jeunes, mais souvent la contamination elle est intrafamiliale. Donc ce n'est pas parce qu'on a le Covid qu'on fait n'importe quoi et on incite les gens à faire attention malgré tout.
Très bien, allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera dédié à la fibromyalgie. 15 experts de l'INSERM viennent de se pencher sur cette maladie, encore mal connue, pour réaliser une expertise collective sur le sujet. Environ 2% des Français seraient touchés par cette forme de douleur chronique et diffuse, souvent associée à de la fatigue et à des troubles du sommeil. Alors en sait-on plus sur les causes de cette maladie? La prise en charge des patients est-elle optimale? Pour en parler, nous recevrons le docteur Didier Boissira. Il est neurologue à l'hôpital Ambroise à Boulogne-Billancourt. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, nous parlerons aujourd'hui de la campagne de vaccination contre la grippe qui démarre ce jour. Alors pour qui ce vaccin est-il conseillé cette année? Que contient-il et pourquoi d'ailleurs faut-il le refaire chaque automne? Nous ferons le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question d'amour et de mariage.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par cette question que nous a posée Mathilde.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. J'ai entendu dire que de boire du café à jeun le matin, c'était pas bon. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi? Merci, bonne journée.
Alors Jimmy, effectivement cette info un peu peut-être contre-intuitive puisque le petit café du réveil finalement c'est quand même un geste que beaucoup de gens font dès le saut du lit. Mais il y a une étude anglaise qui nous dit que finalement c'est peut-être pas l'idéal. Pourquoi ?
Oui, une étude intéressante, 29 participants à qui on fait subir trois choses. La première, une nuit de sommeil normale. Ils se réveillent, on leur donne une boisson énergisante qui a la même valeur calorique qu'un petit déjeuner. Ensuite, ces personnes, on les fait dormir mais pas très bien. On les réveille toutes les heures durant 5 minutes pour une nuit de sommeil un peu agitée. On leur donne aussi cette boisson. Et puis, on fait une troisième expérience. On fait exactement la même chose. On les réveille toutes les heures pendant 5 minutes. Et puis, cette fois-ci, on leur donne tout de suite un café. Et puis, après le café, on leur donne la boisson énergisante. Et on se rend compte que les personnes qui ont pris le café à jeun ont une réponse glycémique 50% plus élevée. Donc, leur glycémie est moins bien régulée que le groupe qui a dormi normalement ou qui a mal dormi, mais qui a pris d'abord un petit déjeuner.
Alors la conclusion du coup de ces chercheurs, c'est quoi? Est-ce que si on a passé une mauvaise nuit, ça veut dire qu'il faudrait d'abord manger et après boire le café?
C'est ce qu'ils proposent, d'essayer de décaler l'heure à laquelle on prend son café, ou tout du moins de manger avant. Alors l'idée, ce serait que, étant donné que vous avez une moins bonne réponse glycémique, il y aurait un risque par la suite d'insulinorésistance et qu'on développe peut-être un diabète.
Peut-être,
attention,
ouais.
Il n'y a pas forcément de lien, c'est une association et pas une corrélation, il faut être prudent. Mais pour l'instant, on proposerait de prendre le petit déjeuner et puis ensuite un café.
Juste puisqu'on parle du matin, de petite routine au réveil, pourquoi c'est important quand même de boire au réveil?
Parce que boire
du
au
café,
réveil,
du thé ou autre chose d'ailleurs.
Avoir un petit apport de liquide, quel qu'il soit, permet le matin d'ouvrir l'appétit et ça permet de stimuler l'estomac et donc à ce moment-là de prendre un petit déjeuner et d'éviter d'avoir ce petit creux vers 10-11 heures.
Je crois que vous avez un petit truc d'ailleurs pour les enfants, par exemple, qui n'ont pas faim du tout le matin, pour leur ouvrir un petit peu l'appétit, on fait quoi?
J'en ai aucune idée, on les force, on se bat, on fait peu comme on peut. Alors, on peut leur proposer de boire, d'ailleurs, dans un premier temps, un demi-verre d'eau le matin.
J'allais le dire, mais je vous laisse le dire, c'est vous le docteur.
Les lever un peu plus tôt aussi, parce que souvent on est dans la précipitation, mais c'est important pour les enfants de ne pas partir à jeun, car ils ont besoin de sucre, et donc s'ils ne mangent pas, ils vont avoir le coup de fatigue, le coup de barre vers 10-11 heures avec une baisse de l'attention. Donc un enfant, avant d'aller à l'école, il ne regarde pas la télé et surtout, il prend un petit déjeuner.
Très bien, merci Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est la question de Marc. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. Voilà, j'ai une petite question. Je voulais savoir si on pouvait être contaminé juste au toucher avec les mains, sur tous les poignets, les supports et voilà. Merci de votre réponse.
Jimmy, une question qui revient souvent hein, depuis quelques mois sur le virus SARS-CoV-2. Alors, est-ce qu'il pourrait persister effectivement un certain temps sur les surfaces? Là, il parle de poignées de porte, par exemple. Et je crois qu'il y a des nouvelles données, justement.
Pas spécialement envie de donner la durée de survie du virus à travers cette nouvelle étude, puisqu'on est en train de rendre les gens un peu confus.
On a lu 28 jours dans cette nouvelle étude.
Voilà, ce serait 28 jours, mais on ne sait pas si... Alors, certains disent que c'est contaminant ou pas. Je pense qu'il faut faire attention et dire que la contamination manuportée, c'est-à-dire au travers des mains, lorsque vous touchez
quelque chose que j'ai touché.
C'est environ 15% des contaminations de Covid. Ça veut dire que c'est pas zéro, c'est pas 100%. Et donc, elle existe. Et donc, qu'il faut se laver les mains, puisque de toute façon, vous pouvez attraper le virus de la gastro ou autre chose. L'immense majorité des contaminations se fait par aérosol. Le fait d'être dans une pièce, le virus est très léger.
Quand j'étais contagieux, si on avait parlé sans masque, vous auriez pu l'attraper, évidemment.
Exactement. Donc,
en discutant.
La contamination au travers d'objets, elle reste marginale, même si on doit quand même être vigilant.
Le fait qu'on trouve ce virus sur une poignée de porte, par exemple, plusieurs heures, voire plusieurs jours après, ça ne veut pas dire en plus le fait qu'il y ait des particules de virus, qu'elles sont contaminantes.
Exactement.
Ça, il faut le préciser aussi.
Alors, dans cette étude, ils sont intéressés, ils ont regardé des billets de banque. Apparemment, le virus pourrait survivre 21 jours. On détecte des traces du virus, mais quand on regarde plus en détail, ils disent quand même qu'au bout de 7 jours, 99% des particules ne sont plus contaminantes. Donc, ce n'est pas parce qu'on détecte des traces dans un laboratoire.
C'est comme du virus mort, en fait. Hein, c'est ça, il n'est pas méchant. Quoi.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de contamination de cette façon, mais qu'elle n'est pas majoritaire et qu'elle ne doit pas plus bouleverser notre mode de vie qui est déjà assez perturbé. Réduisez vos interactions sociales, portez un masque, lavez-vous les mains, ça devrait suffire.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Marc, qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions, santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur et neurologue Didier Boissira qui vient aujourd'hui nous livrer les détails de l'expertise collective sur la fibromyalgie qui vient d'être publiée par l'INSERM. La fibromyalgie, c'est une maladie encore très mystérieuse qui provoque notamment des douleurs chroniques et diffuses. Près de 2% quand même de la population serait concernée. Alors on y revient très prochainement. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Didier Boissira, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue spécialiste de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Et avec vous, aujourd'hui, on va faire un point sur la fibromyalgie. Mais d'abord, on va dire d'un point de vue général, puisqu'il s'agit quand même beaucoup de douleurs dans cette maladie. Myalgie, d'ailleurs, ça veut dire ça, je pense. Hein, si je ne me trompe pas, ça veut dire douleur. Si on parle de douleur en général, est-ce que la douleur, c'est un motif très fréquent de consultation?
La douleur en tant que telle, c'est le motif principal de consultation hein, chez les médecins, aux urgences. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais cette douleur-là, elle est souvent un symptôme de quelque chose. Donc on va chercher à traiter la cause de la douleur, bien sûr, même si on traitera aussi la douleur, si c'est une douleur qui dure un certain temps. Cette douleur-là, elle est plutôt utile, on va dire, puisqu'elle nous permet de faire des diagnostics, elle nous permet de nous protéger, elle a un rôle protecteur, c'est un signal d'alarme. Donc cette douleur-là, en général, on va la traiter quand elle dure un peu longtemps, quand elle gêne les patients, mais c'est pas un motif majeur de consultation chronique. En revanche, la douleur chronique, c'est complètement autre chose. Et la fibromyalgie, c'est un exemple typique de douleur chronique, c'est-à-dire une douleur qui va durer très longtemps, des mois, des années, qui n'a plus du tout aucun rôle protecteur, qui n'est plus un système d'alarme. Et là, on doit traiter la douleur pour la douleur.
Surtout que la douleur, c'est difficile à l'évaluer. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer la douleur d'un malade? Souvent, c'est subjectif et parfois même, je vois des malades qui ont l'air d'aller très bien et quand je les interroge, en fait, ils ont très mal. Donc, on n'exprime pas tous la douleur de la même façon.
Exactement. La douleur, c'est évidemment subjectif. Hein, c'est un ressenti personnel et on n'a pas tous le même ressenti de la douleur, bien entendu. Et donc, et il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas de dosage pour évaluer la douleur. On ne peut pas faire d'imagerie de la douleur. Donc, la douleur ne se voit pas, bien entendu. Et on doit s'appuyer uniquement sur les dires du patient et on s'appuie uniquement là-dessus. Et donc, on va demander au patient de nous décrire sa douleur, déjà. Et puis, ensuite, éventuellement, de la noter, de la coter
sur une échelle
de classique,
0 à 10,
de 0 à 10. Ouais. Et la plupart des patients savent le faire, il n'y a pas trop de soucis. Mais alors, souvent, on nous demande, mais c'est quoi la référence? La référence, c'est chacun sa propre référence. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est votre référence. C'est vous qui cotez la douleur telle que vous la ressentez.
Alors, on va revenir à la fibromyalgie, puisque c'est notre thème du jour. Alors, expliquez-nous rapidement en quoi il a consisté ce travail de l'INSERM. 15 experts qui se sont penchés pendant 2 ans sur finalement tout ce qui a été publié d'un point de vue scientifique sur cette maladie. Donc, c'est bien une maladie, parce que pendant longtemps, on a cru que c'était une maladie imaginaire.
Oui. Bon, déjà, c'est déréglé depuis un certain temps, puisque l'OMS reconnaît la fibromyalgie comme une maladie depuis 1992. Donc, c'est déjà bien. Néanmoins, il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de doutes concernant cette cette maladie. Et on parle même de fibroseptique hein, chez certains médecins. Ils ne veulent pas, ne sont pas très convaincus de l'existence même de cette maladie. Donc, c'est un peu pour répondre à toutes ces questions que le ministère de la Santé a mandaté l'INSERM pour réaliser cette expertise collective. Hein, c'est une des missions de l'INSERM, ces expertises collectives. Donc, c'est de réunir des experts de façon très, très multidisciplinaire pour faire un état des lieux, faire le point, faire une synthèse des connaissances scientifiques sur un sujet donné. Donc, en l'occurrence, la fibromyalgie. Et le groupe d'experts était extrêmement multidisciplinaire, hein, médecins de diverses spécialités, des psychologues, des sociologues, des économistes de la santé, etc. Donc, un groupe extrêmement diversifié et pour aborder l'ensemble des aspects concernant cette maladie.
Quand on parle de fibromyalgie, on comprend que les patients ont mal. Mais où est-ce qu'ils ont mal et pendant combien de temps ? Ça va, ça vient ? C'est une douleur qui est permanente ?
Oui, exactement. C'est une douleur qui est permanente, ou en tout cas qui est présente presque tout le temps. C'est une douleur qui est diffuse, donc qui peut toucher n'importe quelle partie du corps. En général, ça touche surtout les muscles, les articulations, les tendons, mais de façon fluctuante. La localisation peut varier d'un jour à l'autre chez un patient donné.
Jour, c'est les jambes, le lendemain, c'est
exactement,
les bras.
Exactement, ouais. Et en intensité. L'intensité peut être plus ou moins importante également. Donc, une douleur fluctuante, difficile à décrire souvent, mais qui va concerner quand même les muscles, les articulations, les tendons, et qui s'associe à beaucoup d'autres symptômes.
C'est quoi les autres symptômes, justement ?
Vous avez mentionné la fatigue, c'est un des symptômes majeurs hein, associés à la douleur. Les troubles du sommeil, mais également il y a des troubles digestifs, il y a des maux de tête, hein, des céphalées qui font partie des douleurs. Il y a également des troubles de la concentration, des difficultés à se concentrer, à faire un travail intellectuel. Parfois, les patients nous disent qu'ils ont l'impression que leur esprit est cotonneux. Et puis, parfois, même des troubles musiques. Bon, bref, on a un ensemble de symptômes, oui. On parle d'une constellation de symptômes qui est associée à la douleur.
Et ça touche combien de Français ? Est-ce que c'est fréquent ? Est-ce qu'il y a plus une répartition d'hommes ou de femmes qui sont touchés ?
Alors, comme ça a été dit par Mélanie, c'est effectivement environ, on estime à peu près à 2% de la population. Donc en France, c'est quand même autour de 1,2 million
ouais,
au minimum,
rien.
C'est pas rien. Ça touche préférentiellement les femmes. Pendant longtemps, on a cru que c'était presque qu'une maladie de femme.
Et
on
non.
On considérait que c'était 8 à 9 femmes pour un homme. Et puis, les critères ont un petit peu évolué, un petit peu changé au cours des 10 dernières années. Et on s'est rendu compte que finalement, ça touchait beaucoup plus d'hommes qu'on le pensait. Et on est aujourd'hui, on a quand même une majorité de femmes, mais on est à peu près à 2 femmes pour un homme.
Une maladie très handicapante, hein, parce que tout ce que vous avez décrit, on imagine que c'est tous les jours, c'est affreux.
Exactement,
à vivre,
c'est une maladie qui est très chronique, hein, qui dure très longtemps, donc il y a un impact sur la vie, dans tous les aspects de la vie, hein, la vie bien sûr professionnelle, familiale, sociale au sens large, donc une qualité de vie très diminuée.
Docteur Boissira, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez bien sûr avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à vous détailler tout ce que l'on sait à ce jour d'un point de vue scientifique sur la fibromyalgie. Comment se fait le diagnostic aujourd'hui ? Que sait-on réellement à ce stade des causes de cette maladie ? On va vous expliquer tout ça, alors à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous,
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. Je suis ravie d'être de retour avec vous cet après-midi. Alors dans notre studio aujourd'hui, notre invité c'est vous, docteur David, n'importe quoi. Docteur Didier Boissira, j'ai peut-être quelques séquelles, moi aussi, hein, il va falloir que je me concentre. Je rappelle que vous êtes donc neurologue, ça tombe très bien pour moi, spécialiste de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Et donc on fait un point aujourd'hui avec vous sur la fibromyalgie. Alors comment ça se passe d'ailleurs le diagnostic de cette maladie ? Parce que est-ce que c'est quelque chose qui apparaît brutalement, tout d'un coup un matin on se réveille, on a mal partout, ou est-ce que c'est quelque chose qui insidieusement s'installe, je sais pas, au fur et à mesure des mois, des années ?
Non, c'est quelque chose qui apparaît de façon progressive, de façon en général, qui peut survenir après un événement traumatique, qui peut être un traumatisme physique,
un accident, une
intervention chirurgicale, une maladie, une infection, mais également des traumatismes psychologiques,
un deuil
notamment. Des choses sérieuses en général. Et donc là, ça apparaît progressivement, les symptômes s'installent petit à petit. Et puis, c'est là que commence un petit peu l'errance diagnostique, puisque les patients cherchent à trouver une cause à ces douleurs. Donc, ils vont aller consulter divers médecins, divers spécialistes. Ils vont, en général, rentrer dans un parcours très compliqué. On va leur proposer beaucoup d'examens complémentaires, etc., pour essayer de trouver une cause. On la
des radios, des prises de sang, des
et
machins.
Et donc, ce qui contribue à augmenter l'anxiété, l'angoisse des patients, puisqu'ils ont toujours aussi mal, mais on ne trouve rien. Donc, comment expliquer ces douleurs ? Et c'est là qu'on rentre dans ce parcours très compliqué qui peut durer des années.
Ouais. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour poser le diagnostic ? Vous avez des critères où on coche des cases et on se dit, ça plus ça plus ça égale fibromyalgie ?
Voilà, exactement. Il existe des critères de diagnostic qui ne sont pas très très compliqués. En gros, c'est la présence de douleurs sur un certain nombre de parties du corps associées à certains des symptômes qu'on a mentionnés tout à l'heure, fatigue, trouble du sommeil, etc. Et si on a ces critères-là et qu'on ne retrouve pas d'autres causes, quand même, il faut quand même éliminer les autres causes potentielles.
Donc, il faut faire des examens quand même avant de dire qu'on a fibromyalgique.
Évidemment, on peut être amené à faire des examens pour éliminer une autre cause, bien entendu.
Mais parce qu'il n'y a pas d'examen typique, voilà. Un test, j'en sais rien, un scanner, une prise de sang qui dirait « Ah, ça, c'est la fibromyalgie
». Voilà, il n'existe pas de marqueur, test, un dosage qui permettrait de dire « Vous avez une fibromyalgie ».
Donc, c'est plutôt en disant « Vous n'avez pas ça ».
On va essayer d'éliminer d'autres causes. Et puis, il faut quand même qu'il y ait la présence d'un certain nombre de symptômes qui soient présents ensemble
pendant
depuis
une certaine
un certain
durée,
temps.
Ouais.
Et donc là, on a de fortes chances que le diagnostic soit celui-là.
Et du coup, qui pose le diagnostic ? Est-ce que le médecin traitant, le médecin de famille peut le faire ou finalement, nous avons besoin du neurologue et d'un spécialiste ?
Non, le médecin de famille, le médecin généraliste,
mais ils ne sont pas très formés à ça encore aujourd'hui,
non ? Le médecin traitant peut, en théorie, le faire. Il existe même des petits outils de dépistage qui ont été décrits, qui ont été validés en France, notamment. Petit outil très simple, en quelques questions, on pose des questions aux patients. En 5 questions, on peut savoir si on a une probabilité importante d'avoir une fibromyalgie ou pas. Donc, le médecin, n'importe quel médecin peut suivre cette démarche, il n'y a aucun problème.
Mais vous parliez de l'errance diagnostique, donc c'est que j'imagine que les généralistes aujourd'hui ne sont pas suffisamment formés au diagnostic de cette maladie.
C'est un peu le problème auquel on a été confronté pendant des années. Les choses sont en train d'évoluer, mais très lentement. Et c'est vrai que peu de médecins ont été formés à la reconnaissance de cette maladie, ce qui fait que, évidemment, elle n'est pas reconnue. Beaucoup de patients ont souffert de ça et le diagnostic était très souvent très tardif, en réalité, à cause de ça.
Pendant longtemps, on a dit que c'était une maladie imaginaire. Donc, ces femmes, parce que c'est essentiellement des femmes qu'il s'agit, étaient, en gros, diagnostiquées, vous devez avoir des problèmes psychiatriques, c'est ça ? Parce que, mine de rien, l'un peut conduire à l'autre aussi. On peut devenir dépressif, non ? Après des années d'incompréhension, de non-diagnostic.
Ben oui, évidemment, mais c'est un cercle vicieux. Donc, puisqu'on ne trouve pas de lésions, puisqu'on ne trouve pas de maladies sous-jacentes, il était facile de penser que tout ça est dans la tête et que ça ne repose pas sur grand-chose, que c'est un petit peu imaginaire. Alors, s'il y a une chose dont on est certain, c'est que ce n'est pas imaginaire, puisque ces souffrances, ces douleurs, elles sont bien là. Et nous, spécialistes de la douleur, nous savons bien que ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas de cause ou de lésion qu'il n'y a pas de douleur. Bien au contraire, on le sait, la plupart de nos patients n'ont pas de lésion ou ont une lésion qui a guéri depuis très longtemps. Donc, on est confronté à cette situation-là tous les jours avec d'autres situations de douleurs chroniques. Donc, on sait aujourd'hui que ce n'est pas imaginaire. On a même des idées sur les mécanismes qui peuvent
tenter de douleurs. Vous avez, avec cette expertise collective de l'INSERM, pu mettre en évidence certaines causes, certaines explications à la fibromyalgie ?
Alors oui, c'était un des bénéfices de cette expertise, qui a permis donc une approche très exhaustive de tout ce qui a été publié depuis plusieurs dizaines d'années dans le domaine. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les théories, les conceptions autour de cette maladie, de cette pathologie, ont largement évolué. C'est vrai qu'il y a encore une petite vingtaine d'années, on disait que c'est un syndrome médicalement non expliqué. Donc quelque chose qui est, comme vous, pour rejoindre ce que vous disiez auparavant, on est dans l'imaginaire. Et puis, petit à petit, quand les médecins, notamment les médecins de la douleur, les spécialistes de la douleur, s'y sont intéressés de plus en plus, parce que c'est eux qui recevaient les patientes les plus sévères, en réalité, et ils se sont rendus compte que peut-être qu'on pouvait trouver des explications à ces douleurs. Donc, on a d'abord recherché dans les muscles. On s'est dit, si les patients ont mal dans les muscles, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans les muscles. On n'a pas trouvé grand-chose. Et puis après, on s'est dit, ils ont des douleurs, elles ont des douleurs, ils ont des douleurs un peu partout. Est-ce que ce n'est pas finalement leur système de détection de la douleur qui est lui-même...
Les nerfs, alors.
Voilà, qui est, qui est lui-même atteint. On a tous dans le cerveau un système de détection de la douleur qui joue ce rôle de système d'alarme qu'on connaît tous. Eh bien, si ce système d'alarme est lui-même défaillant, on comprend bien qu'on va déclencher des douleurs pour à peu près n'importe quoi, ou de façon spontanée.
L'hypothèse aujourd'hui ?
C'est l'hypothèse principale aujourd'hui. C'est qu'en réalité, la fibromyalgie est en quelque sorte une maladie de la douleur. C'est-à-dire que c'est notre système de détection, de contrôle, de gestion de la douleur. On a dans notre cerveau des systèmes puissants de contrôle de la douleur qui permettent de l'augmenter ou de la diminuer, surtout. Eh bien, ces systèmes-là, qui sont bien connus, qui sont identifiés, qui existent même chez l'animal, eh bien, ces systèmes-là sont probablement défaillants chez ces patients, ce qui fait que chez ces patients, n'importe quelle stimulation devient douloureuse. Leurs systèmes sont hypersensibles.
Docteur Boissira, on va faire une courte pause, on continue bien sûr cet entretien passionnant dans quelques minutes.
Europe 1.
Son rendez-vous revient dans un instant pour cette spéciale fibromyalgie aujourd'hui. On va passer juste après à la prise en charge de cette pathologie. Une prise en charge qui n'est pas toujours optimale malheureusement pour les patients. Vous verrez notamment que l'activité physique est très importante et peut améliorer leur qualité de vie. On vous en dit plus juste après, alors restez sur Europe 1.
Europe 1,
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, docteur Didier Boissira. Vous êtes neurologue, spécialiste de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. On fait un point cet après-midi sur la fibromyalgie avec vous. Et à présent, on va passer à la prise en charge. Mais juste un mot, puisqu'on terminait sur les causes il y a quelques minutes. Vous disiez, on sait que c'est un problème donc, du système de la douleur qui est défaillant chez ces patients-là. Et vous avez même vu dans la littérature qu'il y a peut-être une cause qui ressemblerait à quelque chose qu'on voit chez les diabétiques.
Oui, c'est une donnée assez récente. Depuis quelques années, un certain nombre d'équipes ont publié des cas, des groupes de patients qui présenteraient des anomalies des nerfs, des certains types de fibres nerveuses, qui sont des toutes petites fibres nerveuses qui sont localisées un peu partout sur notre corps. Et donc, c'est pour faire ce qu'on appelle une neuropathie, donc une atteinte de ces petites fibres. Et il se trouve que ces petites fibres sont celles qui conduisent la douleur, normalement. Eh bien, ce type de neuropathie des petites fibres, on retrouve ça dans d'autres maladies, en particulier dans le diabète. Donc c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps et qui peut donner des douleurs, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de la fibromyalgie, mais qui donnent des douleurs assez diffuses aussi. Et donc, le fait d'avoir retrouvé cette anomalie chez au moins un sous-groupe de patients souffrant de fibromyalgie suggère que peut-être...
C'est une piste d'explication.
Il y a une piste de recherche là-dessus, et peut-être qu'un sous-groupe, chez un sous-groupe de patients, il y a peut-être une atteinte neuropathique, une atteinte des petites fibres nerveuses qui pourrait expliquer une partie des douleurs.
Quand un médecin fait un diagnostic, on doit systématiquement proposer une prise en charge, même lorsque la maladie est plutôt difficile à guérir. Qu'est-ce qu'on propose justement à un malade qui a une fibromyalgie ? Est-ce qu'on a le sentiment que c'est comme une maladie incurable en fait ? On a l'impression que c'est un truc catastrophique, comme si on faisait presque annoncer un cancer ou autre ?
Alors oui, la fibromyalgie a souvent une mauvaise réputation. Je pense que c'est une maladie qui dure longtemps, c'est une maladie chronique, comme on l'a dit, mais l'évolution n'est pas forcément inéluctable. Il y a un certain nombre de patients qui peuvent...
Si on a la fibromyalgie à 35 ans, on l'aura jusqu'à sa mort ?
Non, pas forcément. Ouais. Il y a des séries de longue durée qui ont été publiées, notamment aux États-Unis, qui montrent qu'un certain pourcentage de patients peuvent guérir ou voire être en rémission pendant très longtemps. Donc il ne faut pas non plus prendre ça comme étant un diagnostic extrêmement, extrêmement sévère et sérieux.
En tout cas, vous n'avez rien, vous n'avez pas un médicament magique que vous donnez et qui dit c'est guéri.
Il n'y a pas de médicament magique. Et les médicaments, les antidouleurs, ne sont pas la solution chez la plupart des patients.
C'est bizarre parce qu'on a l'impression que les antidouleurs, il y en a tout un tas, on a une palette assez large en France. On sait qu'il y a des paliers, il y a les antalgiques de palier 1, de palier 2, on peut passer au morphinique, enfin, il y a beaucoup de choses. Donc on n'a rien trouvé là-dedans dans toute cette palette.
Les paliers 1 et les paliers 2, comme vous dites, c'est-à-dire le paracétamol, un petit peu les anti-inflammatoires, peuvent parfois être utilisés chez ces patients, mais de façon très, très transitoire, de façon courte. Et tout ce qui est au-delà, la morphine et ses dérivés, en général, on évite, on proscrit. On évite absolument de les prescrire chez ces patients. Donc on peut être parfois amené à prescrire d'autres produits qui sont comme les antidépresseurs, qui ont une action sur la douleur indépendamment de leur action sur la dépression.
C'est pas pour la dépression, d'accord.
C'est pour la douleur. Et justement, ces antidépresseurs agissent sur ces systèmes de contrôle de la douleur. Donc c'est par ce biais-là qu'ils jouent sur la douleur, qu'ils agissent sur la douleur. Donc on peut être amené à les prescrire
Donc vous donnez des antidépresseurs à ces patients, pas parce qu'ils sont forcément dépressifs, mais parce que ça peut les aider.
Alors sachant que ce n'est pas la solution idéale et que dans beaucoup de cas, les médicaments ne suffisent pas.
Ça reste déroutant à la fois pour le médecin et le patient. Une maladie qui donne des douleurs, mais pour laquelle on ne veut pas traiter la douleur. C'est-à-dire qu'on ne veut pas aller dans cette escalade, puisque finalement, derrière, le patient, si on le met sous des paliers comme de la codéine, des morphiniques, il va avoir tous les effets secondaires des traitements sans aucun bénéfice. Donc, dire peut-être aussi au médecin
traitant... Puis devenir accro, il y a un risque quand même.
L'accoutumance, arrêtons cette escalade de traitement sans pour autant dire au patient, rentrez chez vous, faites avec.
Voilà, exactement. Il faut éviter ce qu'on appelle le mésusage de ces médicaments. Et donc, beaucoup de ces produits, comme je le disais, ne doivent pas être utilisés chez ces patients. Et beaucoup les utilisent. Donc, une grande partie de notre travail consiste à leur expliquer, à les convaincre qu'il va falloir arrêter ces traitements pour proposer autre chose.
Du coup, vers des médecines alternatives, l'hypnose, la méditation.
Oui, une partie de médecine complémentaire, mais une grande partie du traitement, c'est déjà l'information. L'information thérapeutique, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très important de comprendre pourquoi on a mal et pourquoi il ne faut pas utiliser de médicaments qui peuvent être plus dangereux qu'autre chose. Et puis, l'autre grand aspect de la prise en charge, c'est la reprise de l'activité physique.
On a mal, on arrête, on reste dans sa petite grotte, on ne bouge plus, mais ce n'est pas du tout la bonne idée.
Exactement, ça peut paraître paradoxal, mais il faut faire exactement l'inverse.
Ça, c'est décrit dans les études, ça marche ?
Oui, bien sûr. Donc, on sait aujourd'hui que c'est même le principal traitement, en quelque sorte.
De bouger.
C'est de bouger ou de reprendre l'activité physique, puisque beaucoup de patients ont arrêté de bouger, arrêté de faire d'exercice, parce que, justement, ils avaient mal. Donc, en se disant, si je bouge, je vais avoir mal. Donc,
mécanisme ça marche, l'activité physique ? Par quoi ?
Alors, ça marche par plusieurs mécanismes, mais un des mécanismes, c'est que ça va permettre de sécréter ce qu'on appelle des endorphines, des encéphalines, donc qui sont ces fameuses morphines endogènes, et qui sont connues depuis très très longtemps, et un des moyens de les faire synthétiser par notre propre cerveau...
C'est des antidouleurs naturels, hein, c'est
ouais,
ça
qui sont synthétisés par le cerveau lui-même, eh bien c'est l'activité physique, on le sait depuis très longtemps, donc c'est sûrement un des moyens par lequel l'activité physique marche plutôt bien chez ces patients, mais toute la difficulté c'est de les convaincre d'aller vers cette activité physique, parce que quand on n'a pas fait d'activité physique pendant des mois, voire des années, et qu'on est certain que si on démarre, on va avoir mal, eh bien c'est pas facile. Donc toute la prise en charge consiste justement à convaincre les patients, et ça se fait dans le cadre de prises en charge qui peuvent être associées à ce qu'on appelle des TCC, des thérapies cognitives, dans un programme multidisciplinaires qui sont les plus efficaces pour traiter ces patients.
Dans votre centre, vous proposez notamment le centre de la douleur, une stimulation magnétique transcrânienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que c'est ?
Alors oui, ça c'est une autre façon de prendre en charge ces patients qui n'est pas du tout incompatible avec le reste. Hein, bien sûr, on va associer tout ça chez les patients et on va ajuster pour chaque patient pour trouver la meilleure combinaison de traitement possible. Et dans notre sens, c'est qu'on travaille depuis plusieurs années sur cette technique de stimulation magnétique transcrânienne qui consiste à envoyer un champ magnétique à travers le crâne.
On n'ouvre pas la tête et tout ça, on est d'accord,
non,
hein,
pas
c'est
non-invasif.
Non,
c'est absolument non-invasif, c'est juste on approche de la tête une sorte d'aimant, on appelle ça une bobine, et on va envoyer ce champ magnétique. Et l'objectif de ce champ magnétique, c'est d'aller justement agir sur ces fameux centres de contrôle de la douleur qui sont défaillants chez les patients.
Et ça marche ?
Et ça marche pas mal. Et c'est-à-dire que ça ne marche pas en une fois, c'est pas magique, hein, on a tenu un protocole de traitement qui dure sur 6 mois, mais on a des résultats quand même tout à fait satisfaisants.
La séance, ça dure combien de temps ?
La séance, ça dure 15 à 20 minutes.
Il n'y a pas d'effet secondaire ?
Il y a zéro effet secondaire, hormis quelques maux de tête parfois juste après la session, mais qui durent très peu de temps. Et il n'y a surtout pas d'effet au long cours, d'effets secondaires au long cours. En revanche, on a des effets positifs qui peuvent durer très longtemps.
Ah oui.
Et donc, on arrive à maintenir...
Chez tous les patients ?
Non, malheureusement, pas chez tous les patients. Mais on a des résultats satisfaisants chez au moins 40% d'entre eux.
Bien.
Et on peut, surtout, ce qui nous a surpris initialement, c'est qu'on arrive à maintenir les effets dans le temps, pendant très très longtemps, avec par exemple une stimulation par mois seulement. Une stimulation mensuelle de 15 à 20 minutes. La plupart des patients préfèrent venir à l'hôpital 15-20 minutes plutôt que de prendre des médicaments qui entraînent des effets secondaires tous les jours.
C'était très intéressant. Merci beaucoup, docteur Boissira, d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir détaillé donc, les connaissances scientifiques sur la fibromyalgie disponibles à ce jour. Merci encore pour cet éclairage.
Merci à vous.
Europe.
Dans un instant, notre chronique « Les bobos du quotidien ». Nous parlons aujourd'hui de la campagne de vaccination contre la grippe qui démarre ce mardi. Alors pour qui ce vaccin est-il conseillé cette année ? Que contient-il ? Et pourquoi d'ailleurs faut-il le refaire chaque automne ? Nous ferons le point dans quelques minutes. Alors restez sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Alors, on va passer à notre séquence, la fameuse séquence, les bobos du quotidien. Aujourd'hui, on va parler de la vaccination contre la grippe. Alors, la vaccination, non pas que ce soit un bobo, évidemment, puisque au contraire, ça permet d'éviter de tomber malade. Donc, la campagne de vaccination annuelle, elle est lancée aujourd'hui. Savez-vous qui sont justement les personnes concernées en priorité par ce vaccin ? Pourquoi il est particulièrement important cette année ? Et pourquoi ce vaccin, finalement, il faut le refaire chaque année ? Qu'en savez-vous ? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Alors moi, le vaccin de la grippe, je suis à ma 3e année. En fait, maintenant, je le fais suite à des complications que j'ai pu avoir il y a 2 ans au niveau de malaise cardiaque.
Moi, c'est pas quelque chose pour lequel je me sens concernée, ça m'intéresse pas. Après, je peux comprendre que pour les personnes âgées, ça soit tout à fait pertinent.
Après, j'imagine que c'est souvent les personnes qui sont un petit peu plus fragiles qui doivent le faire en priorité.
Que la durée de vie du vaccin, c'est 1 an et que la grippe disparaît au beau jour et revient l'hiver.
En fait, je pense qu'il y a une particule ou quelque chose en fait quand même qui contient un peu le virus de la grippe, parce que du coup il faut bien nous injecter ça dans le corps pour avoir des anticorps.
Tous les ans ils ajustent le vaccin en fonction de la grippe de l'année précédente.
Ça peut peut-être nous immuniser partiellement contre le Covid.
On a déjà des soucis avec la Covid, donc autant se protéger de ce qu'on peut. Si on a les vaccins pour, notamment la grippe, autant se protéger un maximum.
Si on est vacciné contre la grippe, on ne sera pas avec des états grippaux. Et du coup, ça évacuera direct le soupçon de Covid.
Alors Jimmy, le vaccin contre la grippe cette année, il est recommandé pour qui en priorité ? Est-ce que ça change d'ailleurs par rapport aux années précédentes ?
Non, les recommandations restent exactement les mêmes, Covid ou pas Covid. C'est lié à des personnes vulnérables. Et j'aimerais rappeler que les personnes vulnérables de la grippe sont les personnes vulnérables du Covid.
Ah oui.
Donc si vous êtes préoccupé du Covid, vous devrez être préoccupé de la grippe.
C'est les personnes plus de 65 ans.
Plus de 65 ans qui ont une pathologie ou des personnes qui ont des pathologies cardiaque, respiratoire, rénal, peu importe, une maladie chronique invalidante. Les femmes enceintes, on l'oublie trop souvent.
C'est pas une maladie, mais c'est à risque pour la grippe.
C'est une situation à risque. Et lorsque vous êtes enceinte, lorsque vous vous vaccinez, vous vous protégez, vous, pour éviter une forme grave. Et aussi, vous permettez à l'enfant qui est à naître dans les mois qui suivent la période d'épidémie d'être protégé par les anticorps liés à la vaccination. Donc, vous protégez vous et les autres. Sauf que malheureusement, on a un objectif d'environ 75% de cette population cible pour essayer d'avoir une bonne couverture vaccinale.
On n'est même pas à la moitié.
On n'est même pas à 50%. Et chez les femmes enceintes, dans une autre étude, on était aux alentours de 7%.
Ouais, donc là, on est vraiment très très loin. Pourquoi cette année, plus que jamais, nous dit-on, dans le contexte de coronavirus, c'est très important ce vaccin?
Alors, parce que pendant cette période, les hôpitaux sont sous tension. Et peut-être
il n'y a pas besoin d'en reparler encore aujourd'hui. On a
et
vu l'état.
Si jamais on rajoute une couche supplémentaire avec une grippe qui vient encombrer de toute façon les hôpitaux.
Chaque année,
pas tant en tant que grippe elle-même, mais les pathologies qui vont décompenser la grippe. Vous avez une insuffisance cardiaque, elle est plutôt bien suivie, bien stable. Vous attrapez la grippe, c'est pas la grippe qui posera problème, c'est la décompensation cardiaque.
Les complications cardiaques,
les complications de l'organe qui est déjà fragilisé. Le système de santé ne pourra pas supporter une double épidémie. Et puis vous, individuellement, vous pouvez avoir une double infection, Covid et grippe, qui serait peut-être mortel.
Mais la grippe, il y en aura moins quand même cette année. Non, avec toutes les règles d'hygiène qu'on respecte de plus en plus quand même.
Alors, on peut le supposer.
Pour le Covid.
Ne soyons pas arrogants comme on l'a pu l'être en janvier dernier à croire qu'on était meilleur que les autres. Peut-être qu'il n'y aura pas de grippe ou peu de grippe étant donné qu'on porte des masques, qu'on se lave les mains. C'est d'ailleurs le cas dans l'hémisphère sud. La grippe a été très légère. Mais je pense qu'avant de tirer des plans sur la comète, il serait préférable de se vacciner pour les personnes recommandées et d'en discuter de toute façon avec votre médecin traitant.
Ouais. C'est un vaccin qui est sûr, le vaccin contre la grippe, parce qu'il y a des effets secondaires ou...
Alors, c'est un vaccin qui ne marche pas toujours, il faut être très honnête. Oui, parfois, la souche n'est pas la bonne, mais néanmoins, elle réduit la mortalité chez les personnes fragiles. Vous allez avoir tout au plus un syndrome grippal. Peut-être que vous allez quand même faire une grippe, mais une grippe qui est moins sévère. C'est pris en charge à 100% pour les personnes qui reçoivent ce petit bon de l'assurance maladie dans la boîte aux lettres.
Il faut se vacciner le
plus
vite possible.
La campagne débute le 13 octobre aujourd'hui, donc il faut ne pas tarder, ne pas attendre 6 mois, ça ne servira à rien. Mais il n'y a pas d'urgence à la minute. Discutez-en tranquillement avec votre médecin.
Un vaccin qui prend à peu près 15 jours en tout cas pour avoir suffisamment d'anticorps pour être protégé. Donc le plus tôt pour les plus fragiles, en tout cas, c'est toujours le mieux. Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h. Alors restez surtout, car juste après, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. N'hésitez pas et restez donc sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui, on a reçu une question par mail, une question d'Emma. Je vous la lis tout de suite. Après 5 ans de relation, mon copain aimerait se marier, mais pas moi. Il a peur que mon refus soit le signe que je ne suis pas amoureuse. Que faire? Alors Catherine, c'est fréquent ce genre de conflit, j'imagine. Il y a la question de « on veut des enfants, on n'en veut pas. On veut se marier, on ne veut pas. » Ça fait partie des grandes questions de couple. Est-ce que voilà, l'un qui veut se marier, l'autre non, ça fait partie des conflits dont vous entendez parler peut-être dans votre cabinet, je ne sais pas.
Oui, pas seulement dans mon cabinet. Je crois qu'on en entend tous parler parce que ça pose la question de l'engagement. Et à partir du moment où un s'engage sur un sujet ou sur un autre, donc c'est j'ai envie de faire l'amour et l'autre moins, est-ce que tu m'aimes moins? J'ai envie de t'épouser, l'autre pas, est-ce que tu m'aimes moins? J'ai envie d'enfant, l'autre pas, est-ce que tu m'aimes moins? C'est toujours au travers de grands événements de partage la question qui se pose, au lieu d'écouter qu'il s'agit du sujet du mariage et ce que veut dire pour chacun, de par l'histoire de chacun, la notion de se marier, chacun y évalue l'amour et l'abandon que chacun offre à l'autre.
Pourtant, ces personnes qui vivent ensemble depuis parfois de nombreuses années, qu'elles soient mariées ou pas, l'engagement est le même, on doit avoir le même respect, on se comporte pareil, peut-être que certains ont des enfants. Donc pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage vis-à-vis du mariage qui n'est rien d'autre?
Vous en connaissez, vous, des gens comme ça?
Oui, qui ne veulent pas se marier,
opposés au mariage,
alors qu'ils vivent ensemble, ils font tout ensemble, alors que c'est qu'un engagement soit religieux, soit auprès de l'administration. Mais on n'est pas condamné lorsqu'on est marié, on peut se séparer, on peut divorcer. Pourquoi ce blocage particulier?
Je crois que certains ont peur, effectivement, que la séparation soit encore plus compliquée. L'erreur est de penser que le mariage est le seul empêchement et que le divorce serait une histoire complexe, que ça serait une tuerie entre deux, etc. La réalité, c'est qu'à compter du moment où on a vécu un certain nombre de temps ensemble, on a de toute façon des choses précieuses que nous partageons. Quand ça peut être des biens immobiliers, ce peut être des enfants, mais aussi des groupes d'amis. Et de toute façon, une séparation est une histoire compliquée. Donc on a l'impression simplement que le mariage, avec ce que ça impose de divorce, avec ce que ça impose de frais, avec ce que ça impose d'acter de ce que chacun détient de biens, et qui risque de nous faire raconter des choses assez moches de ce qui est devenu notre relation si on devait s'en protéger tout d'un coup, fait que les gens préfèrent ne pas avoir cela à traiter. Mais c'est une erreur parce que ça ou pas, de toute façon, il y aura à traiter des choses beaucoup plus importantes que sont des enfants à élever ensemble, même séparés, ou que sont des amis à continuer à aimer, même séparés.
Catherine, moi, je sais pas, j'avais l'impression que c'était plutôt quelque chose de, un truc de mec, de pas vouloir se marier. Là, en l'occurrence, dans cette histoire, c'est l'inverse. Donc, c'est pas... Il y a des femmes comme ça qui n'ont pas du tout cette envie de se marier.
Oui, parce que ça dépend de nos histoires personnelles. Vous avez des enfants qui sont issus de couples divorcés, et ces couples divorcés avec plus ou moins de douleur, avec plus ou moins de méchanceté qu'ils ont pu voir en tant qu'enfants, et donc qui ont peur d'être confrontés à cela. Chat et chaud des crânes au froid.
C'est plus rare quand même, non ? C'est plus souvent les hommes qui ont ce refus du mariage. Enfin, je ne sais pas, je dis de grandes généralités là, qui n'ont pas de
oui,
sens.
Oui, mais parce que parce qu'on pense que on parle souvent des hommes dans ce cas-là parce que ce sont les hommes qui veulent être épousés pour pouvoir faire des enfants, et n'étant pas épousés, ils se disent qu'ils échappent à la sentence de la parentalité. Alors que, évidemment, que ce n'est pas ça qui est à l'œuvre. C'est souvent en fait nos histoires personnelles avec notre connaissance du divorce, avec malheureux ou heureux, qui fait la tranquillité de tendre vers le mariage, ou peut-être l'obligation d'aller vers le mariage pour d'autres, quand certains, au contraire, sont farouchement opposés, mais même très amoureux.
Surtout que là, pour les radins, c'est le moment idéal de se marier. On fait ça en petit comité.
C'est génial.
À 10, ça coûte pas cher. Donc, si à un moment,
ça coûte pas cher.
Il faut se marier, il faut se lancer. C'est ce que j'ai dit à mon frère, c'est le moment de te marier, ça va te coûter pas cher. Donc, allez, lance-toi.
Parce que votre frère est radin, c'est ça qu'on doit retenir.
Est-ce que on
les
peut
bons
quand
conseils
même...
du docteur Jimmy Mohamed.
Je suis pragmatique. Hein, là, 2021, tu fais des économies, un mariage à 10, et c'est gagnant-gagnant. Mais néanmoins, on peut quand même être heureux hors mariage. C'est pas une finalité en soi. Tout comme les enfants ne sont pas une finalité dans la vie. Certains sont très heureux sans enfants.
Absolument, on n'est pas du tout obligé de se marier. Je crois que certains d'ailleurs ont le sentiment que dès lors qu'ils ne sont pas mariés, ils devront faire d'autant plus attention à garder leur relation parce qu'ils ne sont pas officiellement chose de l'autre. Non pas que quand on se marie, on soit la chose de l'autre, mais on peut avoir le sentiment que l'on s'appartient, puisque c'est un peu ce que l'on se dit au moment du mariage. Tu es mien et je suis tienne. Et donc là, tout d'un coup, le fait qu'il n'y ait pas de mariage oblige à être toujours en alerte pour être dans le soin de la qualité de la relation. Et certains, justement, aiment bien cette idée romantique de ne pas être dans l'obligation de s'aimer, mais bien dans la preuve à faire jour après jour de son amour.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à votre duo préféré, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël, avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, Mélanie. Ah, on en a fait des soirées ensemble, parfois masquées.
Oui.
Et justement, Stéphane.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on vous parle de trois personnalités qui étaient masquées, un peu comme nous aujourd'hui. L'homme au masque de fer, Jack l'éventreur, et vous avez choisi des Daft Punk.
Mais ils sont plus que masqués, ils sont casqués.
Oui, mais aujourd'hui, on enlève les masques. Enfin, dans l'émission,
pas les masques.
Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente émission. Comme tous les jours, nous, on sera à l'écoute, bien sûr, et masqués. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.